Il a vécu une longue partie de sa vie en Chine, celle qui précéda Mao comme celle de Mao. Et les Chinois eux-mêmes le considèrent comme leur meilleur historien. La science et la modeste tranquillité de cet homme vont le faire écouter pendant une heure. Puis des invités dialogueront avec lui ou entre eux. Pour les besoins des deux émissions que nous avons consacrées à cette soirée, nous avons, je le dis, pris chez le professeur comme chez ses interlocuteurs quelques moments principaux et divisé l'émission en chapitres. D'abord, nous écoutons le professeur Needham. Il parle de la révolution culturelle, il répond à l'une des questions posées lors du débat. Quel serait le sens de la différence entre une pratique scientifique et technique telle qu'elle s'est développée dans nos pays et l'option chinoise?
Quand on revient à la révolution de 1949 et puis la révolution culturelle de 64 jusqu'à 71, d'après mes propres observations, je ne sais pas si les autres voudraient les confirmer ou non, mais nous trouvons que ces révolutions, et surtout la révolution culturelle, a été essentiellement anti-bureaucratique d'un côté et de l'autre côté démocratique, c'est-à-dire en visant une société tout à fait sans classe sociale et en même temps très basée sur l'éthique et la moralité. C'est peut-être la réponse que je voudrais donner à la troisième question sur le papier que nous avons devant nous. Si on considère la démocratie d'abord, on connaît très bien que les intellectuels et les travailleurs manuels qui ont pris des charges d'organisation sont réunis dans les écoles de cadres qu'on appelle le 7 mai, où les intellectuels et les travailleurs manuels et skilled workers, comme nous disons, étudient ensemble la politique, la sociologie et également la pratique pendant 6 mois ou 1 an. J'ai parlé avec plusieurs intellectuels et travailleurs d'ailleurs aussi qui ont été dans ces écoles et c'était très évident qu'ils ont eu un grand effet en solidarisant ces diverses classes de la société. Si on considère encore l'éthique et la moralité, on le voit par exemple dans la méthode de choisir les jeunes gens pour entrer à l'université. On sait bien qu'en Chine, les jeunes gens après l'école doivent faire 1 ou 2 ans de travail dans quelque entité productive. Et la première chose qui est nécessaire avant d'aller à l'université, c'est de trouver une bénison de la part de ses camarades de travail pour la proposition d'aller à l'université. Évidemment, il y a des autres papiers nécessaires, sans doute la branche du parti communiste aura quelque chose à dire, mais j'ai été assez intéressé à trouver que dans les universités ont le dernier mot, c'est-à-dire même si un jeune homme ou une fille arrive à l'université avec l'approbation des collègues, des camarades de travail, si les universitaires considèrent que cette personne n'aura probablement pas ce qu'il doit avoir pour accomplir la classe à l'université, alors ils ont le veto. Ils peuvent dire non, même si on a tous les autres qualités nécessaires. Mais évidemment, ce que ça prouve, c'est qu'on veut, en Chine actuelle, on veut réduire le nombre de ce qu'on appelle carriéristes. Et on veut accroître le nombre de jeunes gens avec une conception idéaliste dans le sens ordinaire du mot de leur propre activité. En tout cas, c'est les valeurs humaines qui sont au premier plan. Mais pour terminer, je trouve qu'il y a dans certaines directions que l'expérience en Chine pourrait aider énormément le reste du monde. Moi, comme beaucoup d'hommes de science, j'ai extrêmement peur du développement des pouvoirs pratiques des sciences naturelles et de la technologie. Nous avons chez nous en Angleterre l'expression biological engineering, la technologie biologique. Et ce que nous devons attendre pour l'humanité entière est extrêmement déconcertant et troublant. Et alors, si c'est possible que nous devons chercher une éthique, une moralité qui vraiment pourrait maîtriser ces pouvoirs que la science va donner à l'homme, et donne même chaque jour des choses de plus en plus, des pouvoirs de plus en plus terribles, s'il faut avoir une éthique pour maîtriser tout cela, est-ce que ne serait pas possible que c'est la Chine qui pourrait donner à l'humanité les racines de cette éthique? Parce que si on considère qu'en Chine, l'éthique confucéenne n'a jamais été dépendante sur des sanctions surnaturelles, c'est possible alors, si le monde perd la foi dans les pouvoirs surnaturels, est-ce que c'est possible que l'éthique chinoise, la moralité chinoise, ne pouvait pas réussir à sauver l'humanité de ses doutes et de ses tentations futures?
Et voici, après le professeur Needham, la fougueuse Madame Macchiocchi, députée communiste italien et qui est l'une des spécialistes européennes de la Chine.
Je vais avant tout remercier le professeur Needham, pour lequel nous avons tous une très grande admiration et qui a aussi largement contribué à donner à cette soirée une introduction si riche, si belle. Et en même temps, je voudrais dire que finalement je me sens très déplacée dans ce débat par le fait que finalement les problèmes qui m'intéressent le plus, je parle comme communiste, comme militante communiste, comme femme politique, enfin, ces problèmes n'ont pas tellement été au centre de notre conversation. Et pour moi, c'est gênant finalement de tâcher de les prendre tous ensemble et de les ramener à l'intérieur de ce débat. Ce que je voudrais dire, enfin, parce que ça m'a beaucoup frappé, la partie finale avec laquelle Needham a conclu son exposé, c'est-à-dire si ce n'est pas la moralité chinoise ou l'éthique chinoise qui fournit la perspective pour sauver le monde, alors je voudrais dire que je voudrais modifier le langage employé. Et tout de suite rappeler que pour moi il ne s'agit pas ni d'une moralité ni d'une éthique, mais qu'il s'agit d'une grande science, que c'est le marxisme, le léninisme, enfin, qui, comme M. Needham a rappelé, a été transposé en Chine de l'Occident. Enfin. Donc, à la question s'il y a une rationalité emportée et contre la rationalité emportée, là aussi, moi, je serais assez plus souple de ce qui n'est pas notre questionnaire aujourd'hui, parce que c'est évident que à tous les tableaux historiques extraordinaires que M. Needham nous a décrits ce soir, c'est évident que c'est lui qui sert de levier à un certain moment pour une révolution qui est une révolution socialiste, qui est une révolution marxiste, qui arrive à faire une deuxième révolution, la première de l'histoire, sous la dictature du prolétariat, la révolution culturelle. Et à tout ça sert comme base une grande science, une grande doctrine, athée, j'ajoute, le marxisme et le léninisme. Et donc aussi pour rappeler, dans le grand enthousiasme du père Cardonnel, dont j'approuve profondément les fondements éthiques, moraux, comme il a dit, je vais lui rappeler en même temps que finalement, voilà une société dans laquelle on s'est libéré, pas de la religion, parce que comme on a dit d'ailleurs, on n'a pas jamais eu une religion monothéiste, mais on s'est libéré aussi de la foi, je voudrais ajouter. De la foi dans quel sens? Enfin, dans le sens aveugle, enfin, c'est-à-dire que toute la campagne qu'on fait contre le confucianisme aussi aujourd'hui, c'est une campagne contre la foi. C'est-à-dire que quand on dit dans le 10e congrès du Parti chinois, à la fin de ce congrès, on a dit au début de la révolution culturelle, il faut avoir le courage de se révolter. On dit maintenant, il faut aller contre-courant. Il faut tout contester. On reprend Confucius, il y a 25 siècles, on replace les problèmes de la moralité, du juste milieu, de la bienveillance, de la fin de la contradiction, etc. C'est-à-dire tout ce qui paraît déplacé à l'intérieur de la société chinoise comme société socialiste qui veut avancer avec des étapes plus, plus rapide envers le communisme, aurait proposé tous ces problèmes-là, on les repose comme des problèmes qui sont contre chaque type de foi, parce que la dialectique matérialiste est avant tout la fin de chaque forme de foi, c'est le matérialisme, c'est la confrontation avec ce qui sont les lois qui gouvernent le matérialisme dialectique et qui donc permettent aux hommes de se confronter tout le temps et tout le temps avec la réalité. Et il faut se référer à Marx, à tous les grands problèmes travail manuel et travail intellectuel qui est posé par Marx lui-même. Il faut se référer à tous les grands problèmes ville et campagne qui est posé pour la première fois en Europe par Marx lui-même, par Engels, et qui sera posé par Lénine, mal résolu après par Staline, mais il faut se référer à toutes les grandes options qui ont été des options que, dans cette société occidentale, le marxisme et le léninisme ont posées, et que c'est seulement à travers la pratique, et ce n'est pas seulement les génies théoriques, mais la pratique de Mao et la révolution culturelle, et en avant et après la révolution culturelle, sont arrivés à être amorcés comme des grandes questions solubles et possibles. Donc je ne parlerai pas d'une société post-industriel, parce que ces mots me donnent un peu l'idée d'entrer dans un langage trop technologique ou technocratique, etc., parce qu'ils me donnent aussi l'impression que de parler de société post-industrielle puisse vouloir dire che finì l'époque dell'industrialisation, il n'y aura più de contraste de classe, ou le contraste de classe s'estompe à ce moment-là, tandis que les Chinois nous rappellent au contraire, c'est toute leur philosophie, leur Weltanschauung politique, que c'est le combat de classe qui se maintient tout le temps, même à l'époque du socialisme, et que la contradiction tout le temps ressurgit, et que le vieux monde tout le temps tâche de reprendre place à l'intérieur du nouveau monde, donc que le combat est acharné, c'est un combat qui se passe entre les classes, et c'est un combat qui se passe entre les vieux et les nouveaux. Donc je ne parlerai pas d'une société post-industrielle, le problème est très très complexe et on n'a pas le temps de l'aborder, mais je parlerai plutôt d'un pays qui, en envisageant son nouveau modèle d'industrialisation, il socialise la science et la culture, je voudrais employer ces mots, c'est-à-dire c'est le seul pays qui pour maintenant, pas comme marque d'une société des pauvres, parce que c'est ce qu'on dit d'habitude les mandarins de l'Occident, ou ces nombrils du monde que nous croyons encore d'être, etc. Ce qu'ils disent tout le temps, c'est que c'est la marque d'une société des gens pauvres. C'est le contraire, ils socialisent la science et la culture, ils unifient travail manuel et travail intellectuel, haute qualité intellectuelle avec la capacité de travailler à l'usine ou à la campagne, ils le font au moment où ils abordent l'époque nouvelle, l'ère nouvelle, ils ont l'énergie atomique, des grandes usines, ils ont fait des grands exploits sur le plan industriel, et ils ont avancé dans tous les domaines, y compris, à mon avis, les domaines de la médecine, même si je ne suis pas aussi au courant que le docteur qui a parlé tout à l'heure. Donc, pas seulement parler d'une société post-industrielle, mais d'une société socialiste qui a fait sa première révolution, sa deuxième révolution, et qui se donne, pas comme un modèle, parce que j'ai horreur aussi de ce mot modèle, enfin, que j'écarte de mon vocabulaire tout court, mais qui nous ramène au contraire à la nécessité de relier ce qui sont les spécificités de notre monde, de nos problèmes actuels, à ce qui ont été de la part des Chinois à travers le marxisme, le léninisme et la pratique de Mao Tse-Tung, des solutions à lesquelles ils sont arrivés.
La parole est maintenant au public.
Mon nom est Ossip Flechtheim. Je suis professeur à l'Université libre de Berlin. Je sais très peu de la Chine et je parle le français très mauvais. Mais je dois dire quelque chose après ce que j'ai attendu ici. Je parle pas comme connaisseur de la Chine, et je parle principalement comme juriste, comme politologue et comme socialiste libéral. Je suis aussi membre du groupement Amnesty International et comme tel intéressé dans la liberté des hommes, dans la liberté contre la persécution. D'après ce que j'ai entendu, il paraît qu'il n'y a pas de persécution en Chine, qu'il y a la liberté absolue, etc. Je ne veux pas dire que que tout ce qui a été dit est faux. Mais je demande s'il n'y a pas des lacunes considérables. Et je demanderai des questions. Ici à Paris, je suis à Paris, je suis très mauvais. C'est pour moi la ville de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Est-ce qu'il y a des droits de l'homme et du citoyen en Chine? Est-ce qu'ils sont observés? Est-ce qu'il y a la liberté de presse, la liberté d'information, la liberté de, d'y aller et, d'y, et de quitter? Est-ce qu'il y a le suffrage universel? Je me rappelle quand j'étais à Paris en 1927, communiste convaincu à ce moment, nous avions un débat avec le socialiste non communiste Renaudel sur l'Union soviétique. Et M. Renaudel a dit, tout ce que vous dites est intéressant, mais je vous demande une question, est-ce qu'il y a le suffrage universel en Union soviétique?
Pierre Pigagnol.
Je voudrais ajouter juste un mot pour l'élargir un peu. On ne peut pas ne pas être frappé en Chine par la pression du groupe social, la pression idéologique très fortement répandue. De même qu'on ne peut pas être frappé, on ne peut pas ne pas être frappé dans des pays occidentaux de l'éclatement divergent de groupuscules, d'opinions très différentes et en général négatives. Alors, dans ces deux structures qui sont humaines, il serait intéressant de savoir effectivement comment peuvent se développer des réflexes démocratiques et comment peuvent se faire des choix. Car c'est le problème des choix, ce qui nous ramène à la science, le problème des choix technologiques et des orientations de production qui peut se poser. Professeur Nidam, voulez-vous esquisser une réponse sur ce thème ?
Je trouve peut-être qu'il y aurait des autres personnes présentes ce soir qui pourraient la faire beaucoup mieux que moi. Mais si vous voulez savoir ce qui m'est venu à l'esprit pendant que M. Flechtheim a parlé, je voudrais dire, je crois que je suis tout à fait convaincu que M. Pigagnol a raison. Il y a une très grande pression de groupe positive, dans une direction positive en Chine, ça c'est absolument certain. Peut-être M. Flechtheim se souviendra que dans ma contribution, j'ai dit que l'esprit de la Chine, la civilisation de la Chine en général, a toujours été sur la direction des devoirs et non des droits. C'est la conception de droit de l'homme n'a jamais surgi dans la civilisation chinoise. Ils n'ont jamais eu une révolution française, ni une autre révolution antérieure en Angleterre, où nous avons terminé la carrière d'un roi. Nous étions les premiers en Europe de le faire.
Après, vous avez
compris. on n'a jamais eu l'impression des droits de l'homme, la conception de droits de l'homme, et il faudrait peut-être faire une réponse sur des points individuels. Je crois que la liberté de mouvement est assez considérable en Chine. Les étrangers, quelquefois, ont l'impression qu'on ne peut pas voyager par le train ou l'avion sans avoir une sorte de permission de police, etc. Je ne crois pas que c'est vrai du tout. Je crois que si on a l'occasion sur les affaires de voyager n'importe où dans le pays, ça se fait extrêmement aisément. Et puis, il y a toujours les congés, les vacances, où on peut rejoindre sa famille, si c'est loin, par exemple, du lieu où on travaille. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de difficultés en cette matière en Chine. La liberté de sortie du pays est un peu différente. Mais pour comprendre la situation en Chine, il faut se rendre compte toujours de la situation très spéciale qui est qu'il y a énormément de Chinois, une grande population chinoise, toujours hors du pays. Il y a les Haiwairen, c'est-à-dire les gens à travers l'océan, les Huaqiao, les Chinois qui habitent, par exemple, le Malaya, l'Indonésie, ou bien la British Guiane, toutes sortes de parties du monde. Alors, pour les familles qui sont séparées de cette sorte, il n'y a aucune difficulté à traverser la frontière. Chaque nouvel an, des milliers et des milliers des habitants de Hong Kong se rendent à Canton et autres endroits dans le Guangdong. Ce n'est pas du tout avec difficulté. Il y a beaucoup de va-et-vient sur la frontière entre Hong Kong et Guangdong. Mais je ne crois pas qu'on aurait beaucoup de chance si on se trouvait comme travailleur ou ingénieur dans une usine en Chine et qu'on voudrait partir tout à fait du pays. S'il y avait toute la facilité de le faire, on n'aurait pas cet gaspillage de personnes qui traversent la frontière non par le moyen naturel, mais en fuite à Hong Kong. Ça existe toujours. Évidemment, sur une échelle assez petite en relation avec la population de la Chine, vraiment minime, mais en tout cas, ça existe. Évidemment, ce n'est pas possible de réaliser une révolution comme on l'a fait en Chine, sans trouver qu'une certaine proportion, c'est peut-être 5%, 10% de la population, se trouve sans sympathie avec la grande mouvement populaire qui prend place. Évidemment, il faut certainement admettre qu'il y a des gens qui manquent de sympathie pour le grand mouvement social qui se déroule. Mais du point de vue de persécution, je ne crois pas qu'il y a beaucoup. J'ai visité la Chine 4 fois depuis la Révolution, comme j'ai commencé à dire au commencement. Et j'étais surtout surpris par une chose, que la première fois que je suis allé en 52, il y avait avant des chiffres de liquidation, de mort énormément grands dans les journaux de l'Occident. Mais j'ai eu la possibilité en 52 de parler avec beaucoup de mes amis scientifiques que j'ai connus pendant toute la guerre, en conditions tout à fait privées et sans difficulté. J'ai trouvé cette année-là que si les rapports des exécutions avaient été sur la même échelle que disaient les journaux à l'Occident, ce serait impossible de trouver une atmosphère suffisamment, tellement relâchée que j'ai trouvé parmi les collègues scientifiques, s'il y avait une échelle de cette grandeur d'exécution. Alors je crois que, et puis j'ai consulté avec certains occidentaux qui ont vécu en Chine pendant toute la révolution, et ils étaient absolument d'accord que le nombre était beaucoup moins que les journaux de l'Occident disaient à ce moment-là.
Je suis physicien et sociologue, et j'apprends le troisième métier qui est très difficile, celui de futurologue. Eh bien, ce colloque m'a rajeuni d'au moins 40 ans. Parce que je me rappelle des colloques analogues qui sont produits concernant la Russie soviétique, où à peu près dans le même terme et avec les mêmes exemples et avec les mêmes espoirs, on a montré la vision, le visage de la nouvelle Russie. Or, on sait ce qui est arrivé et comment tout est changé. Et la question est la suivante, que probablement, c'est une question, c'est sous l'impulsion de la nécessité provoquée par la science d'aujourd'hui et par la technique qu'elle impose, et donc les structures sociales nécessaires. Donc ce n'est pas en dehors des valeurs ethniques que je pose la question, mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même quelque chose d'objectif dans la science et dans la technique qui impose, malgré les tendances de début, de se transformer dans cette société telle que nous voyons actuellement, soit en Russie soviétique, soit ailleurs.
Merci, M. Poremski, d'avoir posé la question clé qui est la suivante. La science est-elle nivelante par nature? Et à cette question...
Ou le contraire, oui.
Ah mais non, mais c'est, la question est posée, on peut répondre oui ou non. N'est-elle pas nivelante par nature? Voilà la question. Qui répond? Est-ce que Dr Jean-Bernard, voulez-vous?
Je ne répondrai pas directement à la question, mais je crois que dans ce débat, on me demande si on n'est pas en train de méconnaître certaines des caractéristiques les plus particulières du système chinois. Par exemple, la question que vous avez posée, monsieur, qui est capitale, qui nous touche profondément ici, n'a pas le moindre sens pour un Chinois. Pas le moindre sens. Parce que, comme monsieur Nidam l'a très bien dit, ils ont tellement assimilé la notion de groupe et d'équipe et d'œuvre en commun que les notions qui nous sont si chères de liberté individuelle n'ont plus de sens pour un Chinois. Et je crois qu'ils n'en souffrent pas du tout comme nous en souffrions, comme vous et moi nous en souffrions, nous étions soumis à ce régime. Et ceci est joint à un autre élément qu'on a peu parlé jusqu'à maintenant, c'est que la révolution chinoise a créé un type d'homme nouveau qui est moral. Ceci est extrêmement frappant sur tous les points. Ça a fait sourire un certain nombre de visiteurs au début, mais c'est un fait, il n'y a pratiquement pas de valeur, ou extrêmement peu. Vous savez que la morale sexuelle est tout à fait différente en Chine de ce qu'elle est en Europe occidentale. Et ce changement joue un rôle essentiel, car le Chinois accepte les sacrifices d'un certain nombre de facteurs pour le bien de la collectivité. Ce qui, à mon avis, la vraie question pour l'avenir de l'homme qu'on discute ce soir, c'est est-ce que c'est un phénomène transitoire? Est-ce que c'est un sacrifice temporaire pour passer à une étape meilleure? Ou bien est-ce que l'homme de demain sera ce que le Chinois est en train d'être? Mais je crois que c'est comme ça que se pose le problème.
Le théologien, le père Cardonnel.
Je rejoindrai tout à fait ce que vient de dire le professeur Jean-Bernard. C'est que, en effet, je crois que ce qui est capital pour l'avenir de l'homme, c'est la relation entre le monde objectif et le monde subjectif. Et il est certain que pour le peuple chinois, la question d'une connaissance objective, je dirais, sans l'intrusion des facteurs subjectifs d'adhésion, est absolument impensable. Et ce qui me paraît capital chez eux, c'est le type de la connaissance opératoire. C'est le fait, vous savez, ce qui revient continuellement dans le langage chinois, c'est, je ne saurais pas le dire quelquefois dans l'ordre où ils le font, c'est transformer le monde subjectif en transformant le monde objectif, hein, et dialectiquement aussi. Et c'est pour cela que je l'avais mentionné tout à l'heure et j'y reviens. Moi, ce qui me paraît capital, c'est la prise au sérieux, c'est la prise au sérieux d'une thèse de Marx sur Feuerbach, c'est que n'oublions pas que si les hommes sont les produits des circonstances, ce sont les hommes qui produisent les circonstances. La question qui était posée tout à l'heure, c'était, à mon avis, notre habitude dans nos sociétés occidentales, monsieur, vous le disiez tout à l'heure, je crois, avec, nous sommes dans le pays des droits de l'homme. Mais c'est que nous avons, dans notre vie pratique, une conception de la liberté qui est une conception de la liberté de diction. Hein? Que signifie pour une masse humaine, par exemple, la liberté d'une recherche scientifique à laquelle elle n'a pas accès? Parce que les bases matérielles de cette possibilité d'accès font totalement défaut. Alors, je crois que c'est pour les Chinois, c'est impensable, parce que la conception de la liberté de diction est indissociable des garanties matérielles de la liberté de réalisation.
C'était Indicatif Futur, l'émission de Claude Dupont, présentée par Dominique Rémy, avec la collaboration de Michel Bichebois et Françoise Raymond, assistant Michel Torrent.